Et pour continuer après le chiffon, eh bien, les chroniques syndicales, il n'y en a pas aujourd'hui. En revanche, nous en profitons pour rediffuser une émission de Trou Noir. Peut-être nous n'irons pas jusqu'au bout, puisqu'après il y a les chroniques rebelles, mais en tout cas, ça sera déjà toute une partie.
De Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour, donc une nouvelle émission Trou Noir, une rubrique qu'on utilise très souvent, Terre et Radioactivité, une rubrique d'ailleurs que peut-être qui nous survivra, qui risque de durer des centaines de milliers d'années. Donc on a beaucoup de générations qui vont nous succéder au micro de Radio Libertaire, voilà. Donc on est très content aujourd'hui d'avoir Roland Desbordes de la CRIRAD qui va se présenter un peu plus longuement que ce que j'en dis. Il est déjà intervenu sur ta centaine, mais à distance, à l'occasion de diverses émissions ou de divers enregistrements qu'on a pu faire lors de ses interventions en région parisienne. Voilà, on savait qu'il était de passage et on lui a proposé, on est très content qu'il ait pu passer, avoir un peu de temps avec nous. Donc je propose que tu te présentes un petit peu et puis surtout que tu présentes la CRIRAD. Je pense qu'un certain nombre d'auditeurs le connaissent au moins le nom. Quelques-uns connaissent les multiples activités que vous avez, mais moi, je pense que ce sera intéressant que tu les rappelles. Voilà, donc déjà, Roland Desbordes, qui es-tu ? Quelques phrases.
Oui, bonjour à tous et merci de l'invitation. C'est toujours avec plaisir que je reviens dans vos studios, Radio Libertaire. Vraiment sympa. Et bon, ben, moi, je suis physicien de formation. À la base, je suis à la retraite déjà depuis un certain temps. Et je fais partie des gens qui, il y a... On va célébrer, entre guillemets, un anniversaire la semaine bientôt. C'est l'anniversaire de Tchernobyl. Pour nous, ça a été, dans la Drôme, un catalyseur qui nous a mobilisés, non pas pour militer contre le nucléaire. Pour la plupart d'entre nous, on était déjà militants contre le nucléaire. On posait des questions. Les réponses qu'on avait ne nous satisfaisaient pas. On va faire peut-être le bilan aujourd'hui où on en est. Tout ça, c'est désinformation. Et nous, ce qu'on voulait savoir à l'époque, c'était tout basique, c'était est-ce qu'on peut consommer les fruits, les légumes, le lait de la ferme d'à côté, etc. On est dans la Drôme, on vit dans la nature et on se dit mais peut-être qu'on fait des bêtises à consommer notre environnement. Et c'est pour ça qu'on a cherché à savoir et comme hélas les autorités ne donnaient pas des informations, on n'arrivait pas à savoir si des chiffres, hein, nous ce qu'on voulait c'était des chiffres, est-ce que le lait de la ferme, etc. On n'arrivait pas à les avoir, on a interrogé les exploitants qui ont dit, ben ils les ont, et effectivement ils en avaient, mais ils ont dit on ne peut pas vous dire, etc. Donc on s'est dit, bon ben il faut arrêter, on se pose et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut se doter collectivement d'un outil qui nous permettra d'avoir cette information, c'est-à-dire est-ce que les produits sont contaminés, est-ce que l'environnement est contaminé, et savoir si le nuage a effectivement survolé la France ou pas. Parce qu'effectivement, les informations de l'époque, il n'a pas été dit le nuage s'est arrêté à la frontière, mais toutes les informations confinaient à dire la France a été épargnée. Bon, le nuage est passé partout ailleurs, sauf chez nous. Bon. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer, de monter, comme on disait à l'époque, monter un labo, monter un laboratoire spécialisé dans la radioactivité et la mesure de la radioactivité dans l'environnement. Et c'est comme ça qu'est dit, mais sauf qu'un labo, ça coûte très très cher, donc c'est dit, individuellement, on n'avait pas l'argent, donc c'est dit, il faut le faire collectivement. C'est comme ça qu'on a décidé de créer l'association CRIRAD, dont les statuts ont été déposés donc, au mois d'avril 86, dans la Drôme. Et on a commencé à bosser, mais on n'était pas connus, donc il pas d'adhérents à part les copains. On a tapé les copains d'abord. Et là, on a eu la chance, c'est d'avoir par une radio, c'était télé, c'était Polak, Michel Polak, qui nous invite, on n'y croyait pas, sur un plateau de télé, avec une émission qui s'appelait à l'école, droit de réponse, puis après qui est devenue pisser dans un violon. Mmh. Et là, tout d'un coup, on crève l'écran. Alors, pas moi, mais Michel Rivasi, qui avait été désigné comme présidente de l'association, crève l'écran et fait connaître la CRIRAD en France. Mmh. Et du jour au lendemain, on a de l'argent pour créer un labo. C'est comme ça qu'on a pu monter notre premier laboratoire dès l'été 86. Et là, on avait des chiffres. Du coup, les médias se sont intéressés à nous parce qu'on avait des chiffres. Tous les journalistes cherchaient des chiffres. Mmh. Et donc, on a pu commencer à être connus, à avoir des adhérents qui ont été la base, je dirais, de notre indépendance financière, politique. Et c'était évidemment fondamental. Mmh. Il était hors de question qu'on touche à des subsides, à la manne de l'État, c'est-à-dire des subventions d'État, et comme le font, hélas, beaucoup d'associations, et ce qu'on peut comprendre, mais nous, dans notre position, il était hors de question qu'on touche de l'argent d'État, parce qu'on remettait en cause immédiatement tous les organismes d'État qui gèrent le nucléaire, et l'information en particulier. Donc, commission, parce qu'on n'avait aucune prétention à avoir une dimension internationale. Mmh. Aujourd'hui, on travaille à l'international, donc on pourrait rajouter un I à CRIRAD, hein, Commission Recherche Information Indépendante Radioactivité. Mmh. Et dès le départ, on n'a pas parlé nucléaire, mais radioactivité, parce que en réalité, quand on parle nucléaire, on pense centrale, mais la radioactivité, ça concerne beaucoup d'autres domaines, et c'est pour ça qu'on s'intéressait aux essais nucléaires, on s'intéressait à la médecine nucléaire, on s'intéressait à la radioactivité naturelle, etc. Et on a pu donc élargir très fortement notre champ dès le départ. On ne l'a pas restreint, je dirais, à ne regarder que la centrale nucléaire. Voilà comment est née la CRIRAD, en fait.
D'accord. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'une démarche que tu viens de décrire, en fait, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes toujours sur la même démarche, peut-être avec des moyens qui se sont mis en place petit à petit. Vous avez réussi, vous réussissez, c'est pas à passer, à développer énormément d'informations sous diverses formes. Bon, tu pourras détailler un petit peu. Et surtout, ça me paraît, dans le domaine du nucléaire comme dans tous les domaines, mais particulièrement dans ce domaine-là, vous avez réussi à présenter préserver votre indépendance.
Ah oui, notre indépendance, elle a été menacée plein de fois. Parce que, évidemment, on était le vilain petit canard qui vient jouer dans la cour des grands.
Bah oui.
Et là, il a fallu, évidemment, mouiller la chemise, il a fallu prendre des risques, et ça a failli nous coûter plusieurs fois l'existence même de la CRIRAD. Heureusement, et ça, c'est un choix qu'on a fait dès le départ. On a basé toute notre indépendance sur nos adhérents. Mmh. Et nos adhérents, chaque fois qu'on les a alertés en disant « Attention, là, il y a une menace de ci, de ça, etc. » On risque de disparaître. Nos adhérents ont mis la main à la poche pour qu'on ne disparaisse pas. Donc ça, je dis merci à nos adhérents parce que c'est grâce à eux qu'on est, 36 ans après, encore là. Et qu'on a les moyens aujourd'hui, effectivement, comme tu le dis, on est opérationnel. On est prêt au cas où un accident nucléaire a joué notre rôle, ce sera peut-être pas facile, mais a joué notre rôle, je dirais, d'experts indépendants pour donner des informations indépendantes des autorités, des exploitants, des lobbies. Hein, et ça, c'est fondamental, évidemment.
Oui, juste, je pense qu'on fera après une présentation, on va faire une pause musicale, mais avant, si tu veux, pour que les auditeurs comprennent bien. En face de qui, oui, on peut dire en face, en fait, parce que j'imagine qu'y compris concrètement, physiquement, vous devez retrouver éventuellement dans certaines réunions face à un certain nombre d'experts, parce que bon, d'accord, en fait, une expertise au service de la population, etc., mais il y a des experts officiels, donc très rapidement, j'aimerais bien que tu présentes. Alors, je te donne les sigles, l'ASN, l'IRSN, et puis au niveau international, l'AEIA. Bon, un certain nombre, l'AIEA, pardon. Il y a un certain nombre d'auditeurs qui les connaissent, mais pour qu'on comprenne bien face à qui, en tout, bon, forcément en tant qu'individu, mais en tant que personnage au service de l'État, au service des nucléocrates pour certains, vous avez en face de vous. Donc très rapidement, tu peux donner ces trois organismes.
C'est vrai que le paysage a changé depuis 1986. À l'époque, tout était centralisé, c'était le service central de protection contre les rayonnements ionisants, comme son nom l'indique, central, un bunker, aucune information, rien. Il n'y avait pas d'Internet, c'était le Minitel à l'époque, c'était le fax, etc. Donc évidemment, il n'y a rien à voir, circuler. Bon, on connaît, nous, cette époque. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé dans la forme. Dans le fond, ce n'est pas vrai, mais dans la forme, les choses ont beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il y a Internet, il y a une profusion de pseudo-informations qui circulent, et c'est devenu aujourd'hui le rôle de la CRAD, et plus, je dirais, de trier dans tout ce qui est disponible pour dire, voilà, le vrai et le faux. Mmh. C'est ça, notre rôle aujourd'hui, plus que d'aller à la pêche de l'information. Mmh. Alors, le paysage donc, a changé. Effectivement, à l'époque, il n'y avait pas d'autorité de sûreté nucléaire. Il y avait une direction de la sûreté des installations nucléaires, la DECIN, qui dépendait du ministère de l'Industrie. Mmh. Donc, c'était la sûreté nucléaire, mais c'était l'industrie, elle était sous tutelle, cette dessine, et donc, à force de râler de nous, la CRAD, mais pas seulement nous, pas mal de citoyens ont dit, mais il faudrait une autorité indépendante. Le mot était prononcé, du coup, ça a été, par une loi de 2006, la création d'une autorité indépendante qui s'appelle ASN, Autorité Sûreté Nucléaire, qui est effectivement, sur le papier, totalement indépendante de l'État et des exploitants, qui dépend de son financement de l'État. C'est-à-dire, c'est l'argent public, quoi. Sauf que cette ASN, elle fait du très bon travail. Moi, c'est une institution avec laquelle nous, la CRAD, on est très souvent assez en phase, je dirais, pour analyser des situations. Et ça concerne essentiellement la sûreté. Par contre, pour l'environnement, l'ASN, elle fait rien. Ça, c'est le gros point noir. Nous, chaque fois qu'on râle pour des pollutions environnementales à cause de défaillances d'installations nucléaires, l'ASN, elle est plutôt cool, je dirais. Mmh. Hein. Elle dit à l'exploitant, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Mmh. Non, on n'est pas d'accord. Par contre, sur la sûreté, elle a un énorme travail et elle se plaint régulièrement, c'est qu'elle n'a pas les moyens pour faire ce travail. Et là, on le voit avec tous les projets dont on parle, EPR, prolongation des réacteurs, etc. L'ASN a un boulot par-dessus la tête. Et pour faire ce vrai travail, je dirais, de marquer à la culotte les exploitants pour qu'ils appliquent les consignes, etc., etc., elle n'a pas les moyens, l'ASN. Mais sur le fond, je dirais, je ne lui jetterai pas la pierre par rapport à ce qu'elle fait réellement. En tout cas, nous, on arrive à discuter. Par contre, l'expert officiel de l'État, c'est l'IRSN, l'Institut de Radioprotection Nationale, qui, lui, est un successeur du SCPRI de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a des liens génétiques là-dedans. Qui est devenu SCPRI, est devenu OPRI, qui est devenu IRSN. Ça, c'est l'expert de l'État, mais qui est aussi l'expert des exploitants du nucléaire, qui est l'expert de l'ASN, et qui est sous des tutelles des ministères. Alors, parmi les ministères, il y a l'environnement, on ne va pas trop râler, la santé, on ne va pas râler, mais par contre, il y a l'industrie et la défense, qui sont les tutelles de l'IRSN. Désolé, moi, quand j'ai tout ça sur la table, je n'ai aucune confiance. Mmh. Et nous avons pu prouver, nous, parce que nous, celui qu'on trouve sur le terrain comme expert, c'est l'IRSN. Mmh. Pour des études d'environnement, pour des études, etc., comme Vaujour, etc. Enfin, des exemples sont multiples. Eh bien, c'est l'IRSN, et régulièrement, on se chipote avec l'IRSN, on n'est pas d'accord, quoi. Et on le dit. Et ça crée des polémiques, etc. Et on a pu prouver que, malgré cet expert officiel qui a 2000 salariés, nous, on a 13 salariés à la CRIRAD. Eh bien, l'expertise CRIRAD, elle est toujours utile, parce que malgré ces moyens énormes dont dispose l'IRSN, eh bien, il lui arrive de faire des bêtises, des erreurs, volontaires ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, des rapports qui sont pas bons. Et c'est notre rôle, il est parfaitement encore important là-dedans. Et puis, il y a l'AIEA, alors au niveau international... Ça se dit être le gendarme du nucléaire dans le monde, mais c'est totalement faux. L'AIEA est une agence de promotion du nucléaire dans le monde, de la nucléaire civile, et entre guillemets, plus ou moins, de contrôle de la prolifération des armes nucléaires. Mais l'AIEA dépend du Conseil de sécurité, qui représente les cinq puissances nucléaires de la planète. Donc, il est clair qu'elle ne joue pas son rôle de gendarme dans le nucléaire civil, mais de promotion. C'est pas du tout la même chose. Et elle est un peu comme Euratom au niveau européen. Et là, l'AIEA, bah, on a l'exemple avec l'Ukraine, on a un exemple d'un conflit aujourd'hui où l'AIEA, qui pourtant est à côté, elle est à Vienne, elle pourrait... elle n'a rien fait. Et là, on voit bien totalement son impuissance. Il n'y a pas de gendarme international dans le nucléaire. C'est ça la réalité. Alors en plus, alors, je dirais pour la cerise sur le gâteau, c'est que la seule organisme mondial qui pourrait nous protéger notre santé, en tout cas, c'est l'OMS, elle a signé un accord de non intervenir dans le domaine des rayonnements ionisants, c'est de la radioactivité, laissant le champ libre à l'AIEA, qui évidemment est toute heureuse d'avoir non seulement un rôle de promotion du nucléaire, mais en même temps un rôle de communication sur les conséquences néfastes du nucléaire. Ça, c'est pas bien.
Oui, juste un dernier mot, j'avais oublié, mais ça peut avoir aussi une certaine importance pour d'avoir votre avis en tant que CRIRAD sur les commissions locales d'information. Je crois qu'il y en a une autour de chaque centrale, si je me trompe pas. Voilà, donc il y a une assemblée nationale, enfin un regroupement national, ces commissions locales d'information. Qu'est-ce qu'on peut en penser?
Alors, il a été créé par la loi de 2006 parce que tout le monde est d'accord depuis le départ, le nucléaire, c'est pas transparent. Bon. Après, on a donc mis en place, il a été mis en place, des organismes en disant, ben, on va essayer d'aller vers la transparence. C'est un vœu de tout le monde. Sauf que, qu'est-ce qu'on a mis pour ça sur la table ? Par la loi de 2006, il a fallu faire une loi sur la transparence. C'est quand même curieux. Donc, on peut se poser des questions. Donc, qu'est-ce qu'on a mis sur la table ? On a mis, ben, on va faire des commissions locales d'information autour de toutes les installations nucléaires de base et les centrales nucléaires. Grosse, pour faire simple. Ces commissions, elles sont gérées par les départements, beaucoup d'élus dedans, quelques associations pro ou anti-nucléaire, hein, il y a les deux dedans, et puis il y a les syndicats du nucléaire, et puis il y a des personnes qualifiées, entre guillemets, on ne sait pas en quoi, mais enfin bon, c'est... Tout ça c'est bidon. Parce que en réalité, ce sont des instances de concertation, mais pas de débat. Concertation, ça veut dire qu'on a le droit de poser des questions. Bon, très bien. On n'a pas les réponses, mais tout le monde s'en fout. Par contre, on ne peut jamais lancer les vrais débats en disant est-ce qu'on ferme ou on ouvre cette centrale ? Est-ce qu'on l'arrête ? Est-ce que les vrais enjeux sont jamais mis sur la table ? Donc, le discours, toute l'information qui est distillée, parce que ça peut être commission locale d'information, toute l'information vient à 80% de l'exploitant, à 20% de l'ASN. Nous, les associations, nous ne pouvons jamais intervenir pour apporter notre point de vue quand on a des expertises. Et nous, les associations, et je ne parle pas seulement pour la CRIRAD, nous faisons des expertises maintenant. Nous avons acquis des compétences. Il y a aujourd'hui, parmi les bénévoles de ces associations, des gens qui ont des super compétences, qui pourraient apporter de l'eau au moulin de la concertation. Malheureusement, on n'est jamais sollicité pour intervenir. C'est pour ça que nous, on y va encore dans les quelques clis de la Drôme, Drôme-Isère. Mais on est très critique par rapport à ces fonctionnements. Régulièrement, on démissionne. puis on revient, parce qu'on dit qu'il y a peut-être...
T'as abonné à la CRIRAD, je suis au courant des allers-retours.
Voilà. C'est un peu le tango, quoi. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, tiens, là, ils sont vraiment trop nuls, là. Il ne faut pas rester dedans. On cautionne une pseudo-concertation. Donc, on sort. Mmh. Et puis, on apprend qu'il va y avoir discussion sur tel sujet. Ah oui, mais ce sujet, c'est vachement important. Donc, il faut qu'on y aille pour aller pêcher quelques informations qu'on n'aurait pas autrement, etc. Donc, c'est toujours cet aller-retour. On est extrêmement non satisfait de ça. Et évidemment, l'Association nationale des commissions locales d'information qui se réunit à Paris, alors ça, c'est niette. Nous, on n'y va pas parce que là, c'est vraiment une instance totalement bidon. Et puis, en parallèle de ça, il a été mis en place le Haut Comité pour la Transparence et la Sûreté des Installations Nucléaires, le HCTSIN, qui est alors encore plus bidon. C'est-à-dire que lui, quand il a été créé, nous, clairement, à la CRIRAD, on a dit ça, on ne veut pas y aller. Imaginez que le directeur de ce Haut Comité, on avait placé un ancien du CEA militaire. Bon... Comme modèle de transparence, on peut faire mieux. Donc, son fonctionnement, nous, on l'a étudié tous et dit, on n'a aucun intérêt à aller là-dedans. Il y a des associations qui y sont allées. On a essayé, nous, de lancer un boycott de ce haut comité, parce que sans la présence des associations, ce haut comité n'a aucune légitimité. Nous n'avons pas réussi. OK, on n'a pas réussi. Donc, il y a des associations qui sont dedans, qui essayent de... jouer un rôle là-dedans, mais ça fait donc, depuis 2006, ça fait donc 15 ans, plus de 15 ans que ça existe. Si vous ne me croyez pas, allez voir sur le site du Haut Comité, qu'est-ce qu'il a produit ? Est-ce qu'il est intervenu pour des problèmes de transparence ? Est-ce qu'il a secoué un peu le cocotier pour que EDF communique mieux, et Orano, etc. Rien. Rien, rien. Voilà. C'est pour ça que je suis désolé. Je dis, on a eu raison de ne pas y aller. Parce que dans ces instances, il faut toujours se poser la question, est-ce que notre présence dont ils ont besoin pour leur communication, est-ce qu'elle cautionne plus le système que de le remettre en cause ? Et il faut régulièrement se poser la question. Pas toujours facile de répondre.
D'accord, un peu court. Merci. Première intervention, on va passer une petite musique, Monique.
Je t'écris ces mots de silence pour que ces rimes parlent à tes sens, parce que se taire en dit parfois plus que la grammaire à nos voix. Je t'écris de tous mes regards, du bleu, du gris, va-t'en savoir. J'accorde au présent fabuleux la marée verte de tes yeux. Je t'écris. Je t'écris d'un autre alphabet, amour en braille, en mots muets, sans clavier, sans crayon, sans page, je laisse à mes mains le langage. Je t'écris ces lignes de vie que je corrige à l'infini, pour qu'entre tes bras, parenthèse, tu me gardes comme hypothèse. Je t'écris. Je t'écris au temps imparfait de ce passé décomposé. Tu vas me trouver un peu barge, j'ai toujours été dans la marge. Je t'écris au mur de la ville avec ce sourire imbécile. Tout seul dans la rue, dans mon gang, j'apprends des baisers dans ta langue. Je t'écris. Je t'écris. Je t'écris de cet arc-en-ciel. Aux couleurs consonnes et voyelles, il y a du futur dans ma jeunesse. Quand on conjugue nos caresses, je t'écris l'eau de ce poème pour y faire flotter mes je t'aime. Faute d'idées et d'orthographe, je fais le point et je paraphe. Je t'écris. t'écris. Je t'écris. Je t'écris.
Je t'écris, c'était Éric Frasiak dans Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Donc je rappelle que nous recevons Roland Desbordes de la CRIRAD, Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité, qu'il a présenté assez longuement, ainsi que les organismes dans lesquels la CRIRAD peut être amenée à participer, parfois à ressortir, comme dans certaines commissions locales d'information, qui sont souvent relativement bidons. Bon, quand on avait pris contact, je pense que c'était avant qu'il y ait la guerre en Ukraine, je pense qu'on peut, quand même, c'est quand même de l'actualité. Alors, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est quand même la première fois qu'il y a une guerre dans un pays où il y a quand même une énergie nucléaire, je ne sais plus, en Europe, enfin ce n'est pas négligeable, les centrales nucléaires qu'il y a, enfin la quantité d'énergie qui est produite donc en Ukraine. Donc ça pose, moins qu'on puisse dire, un certain nombre de questions. Déjà rien que sur le nucléaire civil, bon je mets de côté un peu le risque ou pas de guerre nucléaire, mais en restant sur le nucléaire dit civil, excusez-moi, qu'est-ce que la CRIRAD pense ? Bon, je sais qu'il y a un certain nombre d'informations qu'elle a diffusées, parfois avec beaucoup d'inquiétude d'ailleurs, donc je passe un petit peu la parole pour résumer un petit peu tout ça.
Alors c'est vrai que ce qu'on vit là en ce moment, ça n'était imaginé dans aucun scénario. Mmh. Jamais. Mmh. On a imaginé l'accident impossible d'abord. Mmh. Hein, c'était, il a fallu sur les Marais Island, en 79. Mmh. Que là, on se dise, ben, tiens, il y a une pompe qui tombe en panne, on va en mettre une deuxième, etc. Problème interne. Il y a eu Tchernobyl, c'est l'erreur humaine, effectivement, qui a amené à la catastrophe. Il y a eu Fukushima, c'est l'agression externe sur une installation nucléaire. Et là, ça a un peu changé le discours. Pourquoi ? Parce que agression externe, séisme, inondation, ça pourrait se produire chez nous. Donc il y a des évaluations complémentaires de sûreté qui ont été faites à la suite de Fukushima. L'Europe avait demandé qu'il y ait des stress tests, c'est-à-dire des tests d'agression de toutes sortes sur des centrales nucléaires. C'est-à-dire y compris terroristes. On ne parlait pas encore de guerre à l'époque, c'était en 2011. La France, à l'époque, a dit les actes terroristes sur les centrales nucléaires, ça ne nous concerne pas la France. Bon, il faut un peu fort quand même, l'acte terroriste en France, on en a connu quand même un certain nombre. Mmh. Bon, donc, on va faire des évaluations complémentaires de sûreté. En gros, on a des réacteurs sûrs, on va les rendre encore plus sûrs. C'est le discours habituel du nucléaire, ça s'appelle le retour d'expérience, l'amélioration permanente dans la sûreté, etc. On apprend en pédalant, etc. Bon, ok, ça on connaît ce genre de discours, mais jamais personne n'a parlé de la possibilité qu'il y ait une guerre au milieu de centrales nucléaires. Et ça, pour moi, c'est vrai, moi non plus. Honnêtement, je n'avais jamais imaginé ce scénario-là. On a tiré quelques leçons de Fukushima, au final, mais je constate qu'on est passé à côté, encore une fois, du scénario qui se joue devant nous. C'est-à-dire des actes de guerre, avec les moyens de la guerre, et pas, un couteau ou je sais pas quoi, hein, c'est des actes de guerre avec des centrales nucléaires. Et ça se passe près de chez nous, à 2000 km de chez nous, ça. C'est pas à l'autre bout de la planète. C'est pour ça que nous, quand la guerre en Ukraine s'est déclarée, tout de suite, on connaît l'Ukraine. On est allé plusieurs fois là-bas, on est allé à Tchernobyl, on connaît la Biélorussie, etc. Bon, donc on s'est dit, oulala, ça c'est grave. C'est pour ça qu'immédiatement, on s'est mis en situation d'alerte, nous, au niveau du laboratoire. Pas pour aller sur le terrain, c'est pas notre boulot, mais par contre pour essayer de glaner qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'en cas de guerre, c'est information contre désinformation. On l'a vu avec la guerre du Golfe, c'est de l'intox en permanence. Il n'y a plus d'infos.
Je ne sais plus qui a dit qu'une des premières victimes de la guerre, c'est la vérité. Enfin, tu dois connaître, je ne me rappelle plus.
Absolument. Donc, on ne fait plus confiance à personne. Et nous, les seuls instruments pour lesquels on a confiance, c'est des matériels qui est disposé, parce que l'Ukraine ayant des réacteurs nucléaires, a des systèmes qui sont un peu ressemblants à ce qu'on a en France. Il n'y a pas de la CRIRAD, donc il n'y a pas de réseau indépendant de surveillance, hein. Mais il y a des installations nucléaires avec des capteurs, il y a des réseaux de surveillance d'État, et puis il y a les pays voisins, et puis il y a même un petit réseau international qui contrôle. Donc, nous, on a l'habitude d'aller surveiller. On sait aller chercher cette info. Donc, immédiatement, on s'est jeté à corps perdu là-dedans, jour et nuit, les premiers jours, pour voir. Et on a eu très vite de l'actualité. Pourquoi ? Parce que les Russes, ils ont d'abord rentré dans la centrale de Tchernobyl. Vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas ? Centrale accidentée,
oui,
avec plein de déchets.
Il n'y a rien, quoi.
Ah non, c'est la zone interdite, bah, oui, hein, oui. 30 km. Alors, c'est vrai que du coup, j'ai réalisé, mais en fait... Ils sont rentrés dans la zone de Tchernobyl, ils se sont tirés un coup de fusil. Hein. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient stationnés en Biélorussie. Mmh. Or, dans la zone interdite, c'est la Biélorussie. Mmh. Donc, ils étaient là, ils sont rentrés, ils étaient déjà pratiquement dans la zone interdite. Du coup, parce que la zone interdite Tchernobyl, c'est 30 km, c'est beaucoup l'Ukraine, un peu la Biélorussie et un petit peu la Russie. Donc, ça couvre ces trois zones. Donc, là, les Russes... Et là, tout d'un coup... Nous, on surveillait ces capteurs habituellement parce qu'il y a encore beaucoup de radioactivité et il y a encore un réacteur accidenté qui n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, on est habitué à aller chercher des infos sur ces capteurs. Et là, tout d'un coup, on voit les capteurs qui grimpent. Les niveaux de radioactivité dans l'air, dans la zone interdite, tout d'un coup, se mettent à grimper au plafond. Donc, nous, on a été les premiers à alerter parce qu'on avait l'œil sur ces capteurs. Et puis les capteurs sont tombés en panne, comme par hasard. Plus d'informations. Du coup, on est condamné à aller chercher dans d'autres capteurs, un petit peu en périphérie, dire mais est-ce que qui fonctionne ? Un capteur qui ne fonctionne plus, on n'a plus l'info. Et on n'est pas sur place pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Du coup, ça nous a mis le pied à l'étrier pour dire attention, qu'est-ce qui se passe ? Là, les Russes viennent de repartir de la zone de Tchernobyl. On s'est demandé ce qu'ils étaient venus faire là. Effectivement, moi, je ne sais toujours pas. Il semblerait que parmi ces soldats russes qui ont séjourné dans cette zone, un certain nombre soient tombés malades. Je dis « il semblerait », parce que c'est de l'information toujours à vérifier. Et comme du côté russe, on n'a pas d'infos, on n'a que les infos du côté ukrainien, il faut donc toujours se poser la question « info intox », hein, même du côté ukrainien, parce qu'on est dans un état de guerre. Hein. Donc ça a été la première mobilisation, c'est autour de Tchernobyl. Et puis, on regarde les autres, il y a d'autres centrales qui sont en fonctionnement. Il y a 15 réacteurs en Ukraine qui fonctionnent, et dont la plus grosse centrale nucléaire d'Europe, qui est à Zaporizhzhia, qui est dans l'est de l'Ukraine, et qui, elle, fonctionne. Et ça assure, ces 15 centrales assurent à peu près 30% de l'électricité consommée en Ukraine. Donc c'est pas mal, 30%. Bien, et là, on apprend qu'il y a des actes de guerre, alors cette fois, autour de cette centrale en fonctionnement. Là, c'est plus sérieux encore. Et là, on ne sait pas qui tire. Moi, je ne sais pas qui a tiré sur la centrale. Mais il y a des tirs qui sont faits dessus. Il y a eu des incendies. Il y a eu des actes de guerre, là, au milieu. On ne sait pas tout ce qui s'est passé. On a eu accès à des caméras de surveillance. On voit des choses. On voit des projectiles. On voit des incendies. Mais... qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a tiré ? On ne sait pas. Bon, on peut supposer que ce sont les Russes. En tout cas, c'est ce que disent les Ukrainiens. Et là, il y a eu des endommagements de circuits accessoires. C'est des circuits qui servent de secours. Un circuit de secours, comme par définition, on ne s'en sert que si on est en panne, s'il y a un problème. C'est donc embêtant. Donc ces circuits de secours ont été endommagés. C'est des tuyaux, en gros, qui sont chargés d'amener de l'eau s'il y a un problème. Et les Ukrainiens ont réussi à réparer, apparemment. C'est ça. Et puis les Russes, mais les Russes sont toujours là autour. Et font la pression sur le personnel qui se sent un peu pris en otage. On peut imaginer un pilote de réacteur nucléaire... Qui travaille avec un pistolet sur la tempe, ça ne doit pas être très drôle, voilà, pour prendre des décisions importantes. Et puis, il y a une autre installation. Alors, je ne sais pas comment va se terminer, parce qu'actuellement, la guerre, elle s'est déplacée un peu à l'est, justement, dans cette région-là. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer. Hein. Est-ce que ça va devenir un enjeu majeur, la centrale de Zaporizhzhia, ou pas? Les Ukrainiens arrêtent un réacteur, puis ils ont besoin d'électricité, donc ils le redémarrent, ils l'arrêtent, ils le redémarrent. Ils sont en train de jongler avec les 6 réacteurs de cette centrale pour essayer quand même d'approvisionner en électricité le pays.
Justement, là, c'était j'ai un peu réfléchi un peu à tout ça, notamment en regardant les informations de la CRAD. Un des risques qui est toujours, hein, j'imagine, c'est parce que bon, une centrale, un réacteur nucléaire qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, ça, je le dis, pense que les auditeurs le savent, il faut continuer à rafraîchir, amener. Donc il faut de l'alimentation électrique.
Et de l'eau. Et
risque, c'est que l'alimentation électrique, bien, ou alors le secours, mais il faut du carburant qui puisse arriver. Est-ce que dans une zone de guerre, il n'y a pas un risque? C'est le risque, il n'est pas. Je vois plus ça, moi, que je sais pas. Une bombe qu'on envoie directement sur un réacteur. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
Mais... Oui, tout à fait. Il y a l'acte direct, je dirais, rupture de l'enceinte de confinement, etc. Libération, bon, c'est la cata tout de suite, là. Hein. Et puis, l'acte plus probable, c'est, comme tu dis, c'est une rupture d'alimentation électrique. L'alimentation électrique, elle est fournie dans une centrale par la centrale qui fonctionne. Mais si elle ne fonctionne plus, elle ne produit plus.
Ben voilà.
Là, il faut le réseau pour assurer l'alimentation. Et si un pylône donc de ligne électrique est endommagé, eh ben, il n'y a plus d'alimentation électrique.
Je crois qu'il y en a eu d'ailleurs qui ont été réparés.
Alors ça a touché la zone de Tchernobyl, ça.
D'accord.
Dans la zone Tchernobyl... Ah oui, à un moment donné, ils n'avaient plus d'électricité. D'accord. Ils ont mis des groupes électrogènes. Mais on sait que ça ne peut pas durer si longtemps que ça, un groupe électrogène. Donc, il faut assurer cette alimentation. Pourquoi il faut refroidir? Parce que même un réacteur arrêté, quand il ne produit plus d'électricité, il produit encore de la chaleur.
Voilà.
Et la chaleur fait que ça monte en température, donc il faut de l'eau. Alors là, il y a un lac à côté, le lac de Pripyat, qui est suffisant. Mais il faut des ponts, il faut les idées pour faire tourner les ponts, pour refroidir. Et ça, c'est évidemment très important. C'est ce qu'ont n'ont pas fait les Japonais à Fukushima, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à refroidir les cœurs des réacteurs qui étaient arrêtés suite au séisme et au tsunami. Et bien, ça leur a pété à la gueule 24 heures, 48 heures après.
Tout à fait, ouais.
Voilà.
Peut-être une dernière question sur le sujet, bien que c'est un sujet malheureusement qui reste ouvert et peut-être pour assez longtemps, malheureusement pour les populations, notamment locales. C'est vraiment un point d'interrogation, mais qu'est-ce que les Russes peuvent imaginer par rapport à cette capacité de production d'électricité nucléaire? Est-ce que c'est pour la récupérer pour eux ou est-ce que c'est une arme pour couper l'énergie au pays, parce que tu as dit ça représentait une proportion importante. Je ne sais pas quel est ton avis. Moi, je sais pas trop. Ça devrait savoir ce que les Russes, en tout cas Poutine et ceux qui l'appuient, veulent faire. Mais moi, ça m'intrigue quand même un petit peu de savoir, par rapport au nucléaire lui-même, quelle est leur option. C'est difficile à dire. T'as peut-être pas.
T'as raison. Moi, j'en sais pas plus que toi. je n'ai rien compris jusqu'à présent, puisqu'on est bientôt à 2 mois de guerre, c'est la stratégie des Russes. Je n'ai rien compris. J'ai bien compris qu'ils voulaient occuper l'Ukraine, toute l'Ukraine. Ils se rendent compte que visiblement, mais pourquoi occuper Tchernobyl? Quel est l'intérêt de couper l'électricité à l'Ukraine? Si c'est pour l'occuper, ils en auront besoin d'électricité. Alors peut-être pour empêcher les communications. Je vois cet intérêt-là. Vous coupez l'électricité, vous coupez les antennes relais, et les Ukrainiens utilisent énormément les téléphones. Et du coup, les Occidentaux, nous, on est coupés des Ukrainiens. Je pense que ça pourrait être cet aspect-là. Maintenant, les militaires, est-ce qu'ils sont conscients, les militaires qui sont sur le terrain, est-ce qu'ils sont conscients des risques à faire des manœuvres dans des zones comme ça? Visiblement, ceux qui sont rentrés à Tchernobyl, ils n'avaient aucune conscience de ce qu'ils faisaient. Là, autour de Zaporizhzhia, c'est différent parce que c'est une centrale en fonctionnement. Et là, c'est vraiment la sûreté qui est en question. À Tchernobyl, c'était se balader avec des chars au milieu des déchets. il n'y avait pas d'enjeu très fort, si ce n'est peut-être symbolique. Qui sait ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne sais pas.
D'accord, de toute façon, on aura malheureusement, comme j'ai dit, l'occasion d'en parler de l'Ukraine, même sur cet aspect-là et sur d'autres. Monique, il nous reste quelques minutes dans cette partie. D'accord, ben, pour rester en Ukraine, malheureusement, chaque fois que je dis ça, bon, je tiens quand même à souligner que la dernière fois j'ai parlé un petit peu du nucléaire et de l'Ukraine, j'ai eu la larme aux yeux. Voilà, parce que je pense quand même aussi à ce que subissent les gens là-bas, même si, bon, j'en parle un peu comme ça, c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur. Donc, je reste sur le nucléaire et le rôle que l'intervention en Ukraine peut avoir sur une certaine relance nucléaire. Alors là, c'est parler un petit peu de tous les circuits d'énergie mondiaux. Qu'est-ce qui risque de se passer? Est-ce que, d'ailleurs, je crois que ça a déjà commencé, un certain nombre de pays se disent, peut-être faut faire des centrales nucléaires parce que le gaz, on va plus en avoir. Est-ce que, par exemple, l'Allemagne, qui était sortie quasi du nucléaire, ne va pas le relancer? Qu'est-ce que tu penses un peu de cet aspect-là? Voilà.
Alors, ça, on essaie d'essayer d'imaginer l'avenir. Bon. Moi, dans la situation actuelle, je ne vois rien. Je suis désolé. Pour moi, c'est une boule de cristal qui est complètement brouillée. Ce serait lire dans une boule de cristal, mais là, il y a vraiment trop d'impondérables, d'incertitudes, d'inconnus, je dirais, là-dedans. Les décisions qui seront prises, elles sont avant tout politiques. Sur des choix, alors... En gros, l'Ukraine, comme tu le dis, a amené tout d'un coup notre dépendance par rapport à la Russie, globalement. Mais notre dépendance par rapport à la Russie, elle n'est pas seulement par rapport au gaz, elle est aussi par rapport au nucléaire.
Oui, bien sûr.
Nous sommes dépendants de la Russie parce que nous avons... le temps de l'URSS est terminé. Le lobby nucléaire, il s'est fait des amis au sein de l'ex-URSS, de la Russie, avec les grands groupes qui sont gouvernementaux là-bas. C'est Rosatom, c'est Tenex,
etc. D'ailleurs,
je
crois que c'est Poutine qui a, Poutine, peut-être pas en tant qu'individu, mais c'est sous Poutine qui a été un peu réorganisé autour de Rosatom, quelque chose d'assez énorme.
Un truc du genre Areva, EDF réunis, quoi.
D'ailleurs, il y a des accords entre Orano et...
Absolument. Et même EDF a des contrats, pas seulement des accords financiers. Il y a des accords financiers. C'est-à-dire des parts françaises chez Rosatom, et Rosatom a des parts chez nous. Rosatom est aussi actionnaire pour des projets français, en Grande-Bretagne, etc. En Turquie, Donc, Mais il y a aussi des accords de technique. C'est-à-dire que, par exemple, EDF, l'uranium, on a choisi, nous, en France, de faire de l'uranium de retraitement. Parce qu'on a choisi le retraitement. Donc, l'uranium de retraitement, en France, il ne sert à rien. Personne, on ne sait pas quoi en faire. Sauf que on peut éventuellement le réenrichir, cet uranium de retraitement, dans des installations d'enrichissement. Nous, en France, on a une installation d'enrichissement, Orano, mais qui ne veut pas le faire parce que cet uranium de retraitement, il est sale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a des radionucléides, du plutonium, des machins, d'autres saloperies dedans. Donc, Orano à Tricastin, où on a l'usine d'enrichissement, ne veut pas le faire parce que c'est du sale boulot et il ne veut pas polluer toute son installation avec. Donc, EDF, qui est propriétaire de l'uranium de retraitement, c'est son combustible usé, a signé en 2017, non, c'est pas si vieux, un accord avec Tenex, qui est une filiale de Rosatom, pour aller faire réenrichir cet uranium à Tomsk, en Sibérie. Et là, les convois, ben ça y est, les contrats ont été signés. Maintenant, c'est rentré dans les fêtes. C'est-à-dire qu'il y a des convois qui sont partis de La Hague, où on extrait cet uranium de retraitement, qui sont partis à Saint-Pétersbourg en bateau, qui sont partis en train jusqu'à Tomsk, au fin fond de la Sibérie. Nous, on avait suivi un de ces convois en 2000, 2000, donc ça fait 22 ans, et avec des journalistes de Laure Nouala, journaliste à Libération, qui avait fait un documentaire « Déchets, cauchemars du nucléaire ». Et on a filmé tout ça. On est allé jusqu'à l'installation pour voir à l'extérieur. Évidemment, on n'a pas pu rentrer. On a pu filmer tout ça. Et à l'époque, quand on avait sorti ce documentaire, donc dans Pièce à conviction, ça avait fait un tel bruit en France, parce que tout d'un coup, on se disait, on est les champions du monde du nucléaire, et en même temps, on fait appel aux Russes pour du sale boulot. Bon, ça la foutait mal, il faut reconnaître. Du coup, EDF avait arrêté brutalement cette filière russe, et puis, à la réflexion, j'ai dit, bah, en fait, ça nous intéresse parce que cet uranium de retraitement, on ne sait pas quoi en foutre. Donc, les piscines sont pleines. Donc, Pierre Latte est plein, l'AG commence à être plein, donc il faut trouver, il faut relancer la filière russe. C'est ce qui a été décidé par EDF en 2017. Et c'est pour ça qu'ils ont signé ces contrats, qui sont en cours d'application. Alors aujourd'hui, avec la guerre, tout d'un coup, tout le monde dit, eh ben, il ne faut plus commercer avec la Russie. On parle de Renault, on parle de Leroy Merlin, on parle de ci, de ça, sauf qu'on ne parle jamais du nucléaire.
Sur le nucléaire, il n'y a rien.
Rien. Bon, tout d'un coup, c'est là, moi, que ça m'énerve, ça. Il faut le dire, ça. Bon, et savoir qu'est-ce que va devenir les contrats, qu'est-ce que vont devenir les contrats que notre nucléaire a avec le nucléaire russe. Mais ça, on n'en parle pas.
D'accord, juste, je pense qu'on va faire une pause musicale. Un dernier mot, que je te demande pas de développer tout de suite, mais je sais que, par exemple, dans le projet ITER, les Russes sont présents et amènent un certain nombre de choses matérielles. On en parlera peut-être au moment du projet ITER. Donc, il y a un certain nombre de choses qui, pour l'instant, il y a aussi, bon, voilà, on sort un peu le nucléaire, tout dans l'espace, il y a un certain nombre d'accords, d'échanges, etc. Donc, bon, voilà, c'est pareil, je fais aucun pronostic, comme toi, j'en sais rien. Qu'est-ce que va devenir tout ça? Est-ce que les Russes vont plus s'orienter vers des accords d'ailleurs, ça s'est déjà fait dans un domaine avec la Chine, et vont laisser tomber, on ne sait pas. Peut-être le savent pas non plus, d'ailleurs. Bon, on va faire une pause musicale, parce que ça fait beaucoup de points d'interrogation. Je pense que le mieux sera d'y revenir plus tard, dans quelques semaines.
Ok.
Le soleil de France a mis ses carreaux pour faire des vacances à ses parigots. Saint-Trope s'est fait belle pour se montrer nue. La France, mais laquelle? Mais la France, mon, comme dirait Zazie. Ta lune en plein feu, y a pas de satellite. Le monde fait ce qu'il peut pour tourner plus vite. À Cap Kennedy, on gratte l'inconnu d'un doigt sale suivi de l'Amérique, mon, comme dirait Zazie. Dans les yeux, la poudre de Kremlin, pimpin, je te passe ma foudre, tu paieras demain. Puis tombe le rideau, l'entracte venu, c'est vu de très haut, la Russie, mon, comme dirait Zazie. À Rome, on baptise des deux goupillons, je te vends mon église à tous les rayons. La pudeur s'en fout de payer un peu plus, vu que ça se passe en dessous de l'Italie, mon, comme dirait Zazie. La Chine, c'est tout comme, paraît qu'elle voit rouge. Il y pousse des hommes et les hommes, ça bouge. La planète s'inquiète, le Vietnam remue. Le monde paie ses dettes, mais le monde, mon, vous m'avez compris.
Comme dirait Zazie, c'était Géant Jonas sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Donc, je rappelle que nous recevons Roland Desbordes de la CRIRAD. On avait effectivement mis un sujet d'actualité. Dans les premiers contacts, on n'y pensait pas. Et effectivement, on a une guerre dans... dans un pays nucléarisé, on avait un peu évoqué qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et moi, j'avais émis, à la fin de son intervention, l'hypothèse que les nucléocrates allaient peut-être se servir de ça pour relancer un peu plus le nucléaire. Bon, j'ai vu que, par exemple, que le Royaume-Uni, enfin, tout ça, c'est des mots, hein, mais prévoyait lancer 7 centrales d'ici 2050, avec des petits réacteurs, enfin bref. D'autres pays aussi, enfin, je ne rentre pas dans les détails. Pour prolonger les espoirs des nucléocrates, ils ont eu un relatif appui il y a quelques mois au niveau européen. Bon, ça me paraissait difficile de ne pas l'évoquer, puisque, je ne sais pas si le mot exact a été pris, mais le nucléaire a été reconnu comme une énergie verte, enfin, c'est peut-être pas le mot qui était une énergie durable. Bon, enfin, en tout cas, effectivement, durable là-dessus, on ne peut pas les critiquer, parce que c'est des centaines de milliers d'années, c'est quand même assez durable. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du rôle que peut avoir ce niveau européen, est-ce notamment du rôle financier? Est-ce que ça permettrait de financer, pour la France en tout cas, un certain nombre de projets qui coûtent de plus en plus cher ou pas? Ou est-ce que c'est bidon? Qu'est-ce que tu penses de cette position européenne?
Alors, il faut savoir, c'est que, au contraire de ce qu'on nous a dit depuis toujours, c'est que le nucléaire coûte très très cher. Et l'électricité fabriqué avec les centrales nucléaires coûte beaucoup plus que le prix qui est payé par les Français. Parce qu'il y a, et la Cour des comptes, c'est pas moi qui le dis, la Cour des comptes s'est penchée plusieurs fois sur le sujet, en 2012, 2016, il y a eu au moins 3 rapports de la Cour des comptes sur le coût de l'électricité d'origine nucléaire. Qu'est-ce que dit la Cour des comptes? Ce sont des gens très prudents, hein, c'est pas anti-nucléaire. Hein. Donc, ils ont essayé de trouver quel était le coût réel de l'électricité produite avec nos centrales nucléaires. On parle pas du futur, là, on parle simplement du passé, du présent. Et là, on s'aperçoit, c'est que, en lisant ce que écrit la Cour des comptes, c'est que, en fait, on devrait payer, enfin, le vrai coût de l'essai d'ordinaire, il est environ 2 fois plus que ce qu'il est donné aujourd'hui comme étant à 40 euros pour donner des chiffres. 40 euros le mégawattheure, en réalité, c'est plutôt 80, ce qui coûte réellement. La différence, ben, c'est nous qui le payons à travers nos impôts, ça c'est clair. Les dés sont pipés. Voilà. On n'est pas dans la transparence économique. Et le dernier bouquin d'Antoine de Ravignon, qui est journaliste économiste, qui vient de sortir, qui lui est un économiste, donc il sait de quoi il parle. Alors là, il met tous les chiffres sur la table et il dit non, le nucléaire est de plus en plus cher. Et quoi qu'on fasse, de toute façon, le coût va augmenter. Alors que, parallèlement, c'est peut-être pas le sujet, mais les énergies renouvelables ont des coûts de production qui baissent énormément. Donc, les coûts augmentent. Les coûts augmentent parce que déjà dans le passé, on a mal évalué, je dirais, ces coûts. Ça, c'est la Cour des comptes qui le dit. On a des centrales qui sont vieillissantes, donc qui nécessitent plus d'entretien. C'est normal, des vieilles voitures, hein, ça coûte plus cher. Et puis, y a les déchets à gérer, et puis la liste, quand on ajoute tout, l'accident, qui n'est pas assuré, le nucléaire, donc il n'y a pas de prime d'assurance hein, à payer pour les exploitants de nucléaire, puisqu'ils ne sont pas assurés. Et c'est la seule industrie au monde, le nucléaire, qui roule sans assurance. C'est quand même impressionnant, ça. Comment est-ce possible? C'est parce qu'il y a eu des dérogations, et le nucléaire fonctionne beaucoup à coup de dérogations, comme quoi cette industrie pouvait rouler sans assurance. C'est-à-dire que s'il y a un accident, eh bien, il est prévu une petite provision, mais ridicule, de l'ordre du milliard d'euros, alors qu'on sait très bien qu'un accident nucléaire, c'est de l'ordre de 500 milliards, voire 1000 milliards. C'est pas nous qui le disons, c'est l'IRSN qui le dit. C'est l'expérience Fukushima, en gros. On a des retours d'expérience maintenant d'accident nucléaire, on dit, on peut mettre des chiffres là-dessus. Avant, on n'en avait pas, on pouvait pas mettre de chiffres. Donc, quand on met tout ça bout à bout, et c'est ce que fait très bien Antoine de Ravignon, il dit ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Et c'est donc d'abord trop cher. Après, c'est très lent, le nucléaire. Quand on prend une décision, et au moment où on va appuyer sur le bouton pour produire l'électricité, il s'écoule 10 ans, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, on est devant des urgences. On se dit, oulala, il faut faire vite, le réchauffement climatique, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Je pense que c'est vrai. Mmh. On est devant des urgences, et là, on a un truc qui est hyper lent. Comment on peut prétendre que ça va être une solution pour le réchauffement climatique, que tout le monde aujourd'hui reconnaît comme étant une réalité, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Hein, aujourd'hui, on se dit, il faut aller vite. Et puis, il y a l'épuisement des ressources, l'uranium, etc. Il y a la gestion des déchets sur le très long terme. Enfin, bon, il y a tout ça qui fait que ça devient totalement hors de prix, le nucléaire. Alors, s'il n'y avait pas des aides publiques françaises, européennes, il y a des aides publiques pour plein de choses. Eh bien, le nucléaire n'a absolument aucune possibilité de s'imposer. Aucune. Il n'a aucun argument. Il fallait donc, comme l'Europe a un grand plan, qu'on appelle le grand plan pour le grand développement de l'Europe verte, Horizon 2030-2050, enfin bon, il y a des belles intentions au niveau européen qui sont sur la table, qui ont été votées. Maintenant, il suffit de faire rentrer qu'est-ce qu'on met, quelle somme d'argent, à quel endroit. Il fallait donc définir des critères pour l'énergie, on ne parle que de ça maintenant, hein, pour savoir où on va mettre la monnaie. Et ces critères, ça s'appelle de la taxonomie. Ouais. Alors ce mot, d'ailleurs, moi je ne le connaissais pas, j'ai découvert ce mot taxonomie. Ça veut dire, c'est des règles en disant l'Europe met de l'argent, c'est des milliers de milliards là qui sont sur la table, hein, en fonction des critères d'énergie qui sont, alors, entre guillemets, vertes. C'est-à-dire, en gros, deux critères, c'est il faut que ce soit durable, hein, et il faut que ce soit respectueux de l'environnement. Voilà, les deux critères. C'est assez léger, quand même. Hein. Une commission spéciale, ad hoc, de fonctionnaires, a été mise en place depuis 2-3 ans, 3 ans, je crois, 2018-2019, qui a commencé à travailler en disant, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Le charbon, c'est caca. Le pétrole, c'est pas bien. Les renouvelables, c'est éolien, photovoltaïque. Oui, ça, c'est bien, pas de problème. Il restait quelque chose entre les deux, le gaz et le nucléaire. Où on se dit, là, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de moyenner pour, etc. Et c'est ce qu'ont réussi à faire ces fonctionnaires qui ont travaillé sous influence des lobbies, parce qu'il y a 20 000 lobbyistes à Bruxelles, dont beaucoup de lobbyistes du nucléaire, et il y a plein d'associations, il y a plusieurs associations à Bruxelles qui s'intéressent justement au lobbying, c'est-à-dire savoir qui fait quoi, et pour savoir comment nos grands groupes pollueurs arrivent à approcher les membres des commissions, les parlementaires, etc., pour influencer les décisions qui sont prises. Et là, on a toutes les preuves que l'action des lobbyistes sur cette commission, elle a été faramineuse. Ils ont dépensé plusieurs millions d'euros rien que pour ça. Pour que cette commission arrive à sortir son rapport, il fallait bien le sortir, le 31 décembre, c'est bizarre, 2021. Et c'est là la surprise que tout le monde a été relayé, alors partout. Le nucléaire et le gaz font partie des énergies vertes dites de transition. Voilà. Et ça a surpris tout le monde. Enfin, moi le premier, hein, honnêtement, j'ai dit, mais comment c'est possible? Ah ben, c'est vrai qu'il y a eu un accord, alors complètement contre nature, entre la France nucléaire et les pays plutôt de l'Est, consommateurs de gaz russe.
Oui.
Voilà. Oui, ça, c'est et c'est cet accord-là, c'est l'accord du carpe et du lapin, hein, mais c'est comme ça, qui fait que ça a été dit que ça y est, c'est adopté. Totalement faux. Ce n'est pas adopté. Le Parlement européen, et en ce moment, il se passe des choses qui sont très importantes au Parlement européen. Moi, je suis un petit peu au courant parce qu'on est en contact avec des parlementaires européens, dont Michel Rivasi, qui a été à la Queyrade, mais pas que elle. On a beaucoup de partenaires au niveau européen avec des associations. On est en train de créer un réseau européen par rapport au nucléaire. Hein. Ce réseau, on est en train de le créer, nous, la CRAD, avec d'autres associations, pour justement veiller au grain, pour faire de la vraie information, pour contrer la désinformation qui fonctionne parfaitement. Et donc, on a créé ce truc-là, et on a fait remonter ça au niveau des parlementaires. C'est remonté au niveau des parlementaires. Les groupes parlementaires européens, ça c'était le 31 décembre, ça faisait il y a trois mois et quelques. Hein. Les groupes parlementaires européens se sont réunis déjà en disant « Bah oui, on a peut-être notre mot à dire là-dedans. Il faudrait peut-être que le Parlement soit saisi de ça, quand même. On a notre mot à dire. » Pour que ça se fasse, c'est ça, il faut interpeller le Parlement en disant au moins que quelques groupes, pas un seul, mais quelques groupes, disent « Nous, on veut voter là-dessus. » C'est ce qui a été fait. Et ça a été accepté. C'est-à-dire qu'il va y avoir un vote au Parlement européen début juillet. Moi, je ne sais pas dire ce qui va sortir, hein, parce que les lobbyistes, ils sont là. Hein. Mais au moins, il va y avoir... Et donc, ce n'est pas plié. Voilà. Et ça, c'est plutôt rassurant, je dirais.
Oui, j'avais lu ça dans le Canard enchaîné, mais je préfère que tu donnes tous les détails que je ne connaissais pas. Effectivement, que ce n'était pas encore fait, contrairement à l'annonce qui avait été faite.
Et il y a même des pays comme l'Autriche, le Danemark, le Luxembourg, qui disent, nous, si c'est adopté malgré tout, on portera plainte. Oui. Et on a des arguments solides, évidemment il y en a plein, pour dire, non, on ne peut pas faire ça. L'Europe ne peut pas investir, parce que ce n'est pas seulement donner de l'argent de manière perdue, à fond perdu, c'est aussi garantir des emprunts par des États auprès de sociétés privées.
Oui.
Donc ça va beaucoup plus loin. Oui, c'est pour ça que quand je dis les sommes en jeu, elles sont colossales.
Oui, c'est énorme.
Ah oui, c'est énorme. Alors, la France, EDF, en a bénéficié pour Hinkley Point. Elle a bénéficié de fonds européens, parce qu'il y avait encore un flou, elle a réussi à passer, pour financer en partie les réacteurs anglais. Et maintenant, l'Europe dit à l'Angleterre, rendez l'argent. Dit à EDF, rendez l'argent, vous n'êtes plus dans l'Europe. Sauf que les Anglais, à EDF, disent, non, l'argent est donné, il est donné, on ne va pas le rendre. Hein.
D'accord. Écoute, de toute façon, ça, à mon avis, c'est quand même dans la continuation de ce qu'on échange, puisque derrière ça, il y a des sommes colossales. Si on regarde un peu la situation en France, on en avait parlé un petit peu avant le début de l'enregistrement avec toi. On pourrait justement parlons du projet actuel des EPR. Je sais que Monsieur Macron a promis, je me rappelle plus du chiffre, d'en lancer, je sais plus combien, la réussite première en France, en tout cas. Donc si tu peux nous parler un peu la situation, juste avant de te passer la parole, je rappelle qu'en gros il y a un EPR en Finlande, je ne sais pas s'il a démarré ou s'il va démarrer.
Il est en phase de démarrage, n'est pas encore puissance nominale, il peut encore lui arriver beaucoup de choses.
Et il y en a donc en Angleterre, il y a Flamanville, il y a un certain nombre de projets. Donc est-ce que tu peux, on en a déjà parlé il y a quelques années, mais tu peux nous faire le point, ne serait-ce que par des incidents qu'il y a eu il n'y a pas longtemps du tout, justement sur la centrale qui est en Chine, là. Peut-être que tu peux parler de ça, ou si tu as envie de développer autre chose, mais notamment cet aspect-là, parce que pour l'instant, vous avez, si j'ai bien compris, un communiqué d'ailleurs, je crois, de la CRAD récent là-dessus. Je dirais pas c'est étonnant, parce que ça vous étonne pas, mais de ne pas avoir les réponses précises sur un certain nombre de points que vous avez amenés, ça vaut peut-être le coup que tu développes un peu ça.
Si on veut faire le bilan aujourd'hui des projets, parce qu'il faut se méfier dans le nucléaire, il y a beaucoup d'annonces qui ne se réalisent jamais. Moi, je me souviens d'un communiqué, c'était encore Areva, qui dit « On va construire notre deuxième réacteur en Turquie ». Ah, j'ai dit « Zut, j'avais raté qu'il y en avait déjà un ». En fait, non. Il y avait eu des effets d'annonce qui disait qu'il allait construire, qui n'a jamais été construit. Là, actuellement, il y en a un apparemment en construction, mais ce n'est pas nous. Ça, c'est les Russes qui le construisent. Donc, il faut se méfier beaucoup des annonces. Parce que ça fonctionne comme ça, le nucléaire. C'est-à-dire, à coup d'intox, on va faire, on fait croire qu'on fait, et puis en fait, on ne fait rien. Et les projets réels qui aboutissent, il n'y en a pas beaucoup sur la table. Quand on voit, nous, Les projets que nous avons lancés, nous, la France, je ne sais pas nous, pas nous la Cuirade, hein, mais la France, sur des EPR, par exemple, hein, bon, les Chinois, c'est eux qui l'ont construit, on leur a vendu les plans. C'était plus simple. Mais ils ont des ennuis. Il y en a un sur les deux qui est déjà arrêté depuis 9 mois. Et on ne sait pas très bien, il y a un problème de panne, il y a un problème grave. C'est pour ça que nous avons communiqué, nous, la CRAD, sur cet EPR chinois, parce que nous avons eu des indiscrétions de quelqu'un qui travaille chez EDF, qui nous a dit, non, mais c'est grave ce qui se passe là-bas. Ah, si quelqu'un qui nous dit c'est grave, c'est pas simplement une petite fissure dans un crayon. Hein. Donc c'est grave parce qu'il y a un vrai problème de conception. Ah, mais alors si c'est mal conçu, c'est mal foutu, ça veut dire que ça peut toucher les autres.
Mais dis-nous ce qui s'est passé, parce que bon, je sais que moi je suis un peu au courant, mais qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qu'on a appris en premier venant de Chine?
Ben, on a appris qu'il y avait des crayons qui étaient... Alors, le constat,
c'est... On a appris avec un sort délai par rapport à l'incident lui-même, comme d'habitude.
Tout à fait, oui, bien sûr. On est dans un pays pas très démocratique, ouais. Et les Chinois, apparemment, moi ce qu'on me dit, ils poussent un peu sur les bécanes. C'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas piloté non plus le réacteur. En tout cas, ils ont vu un indice d'un problème qui est la contamination du circuit primaire,
C'est pas rien.
Une contamination qui, normalement, est un indice d'un incident, d'un problème à l'intérieur de la queue du réacteur. Comme on ne peut pas l'ouvrir en fonctionnement, il faut arrêter le réacteur, l'ouvrir et envoyer, même pas y aller en direct, il faut envoyer des caméras pour ausculter tous les crayons. Et il y en a un paquet dans un réacteur. Donc, c'est pas rien. Et là, les Chinois, ils ont arrêté vraiment le dernier... Ils ont attendu le dernier moment. Là, c'est vraiment, c'est trop, là. Il y en a trop de radioactivité, on va arrêter. Donc, ils ont attendu plusieurs mois, comme tu dis, hein, avant de le faire. Bon, finir, ils l'ont fait. Et là, ça fait 9 mois qu'ils cherchent. Ils ont découvert des crayons qui sont fissurés. Mais il y a 2 types de fissures, ça c'est nouveau, qu'on n'avait pas connu jusqu'à présent. Il y a des fissures par des crayons qui ont touché les uns contre les autres, et d'autres c'est parce qu'ils ont frotté contre la paroi du cuve du réacteur. Donc 2 d'origine différente qui aboutissent à des crayons fissurés, à des tubes fissurés. Mais pourquoi? Pourquoi c'est pas normal que ces crayons, ils se frottent les uns contre les autres. Ils sont à une certaine distance, normalement. Ils ne doivent pas frotter contre la paroi. C'est là que nous, on a soulevé l'hypothèse, c'est que l'eau circule mal à l'intérieur. Ça, c'est un gars qui travaille dans le nucléaire qui nous a donné cet indice-là. En gros, l'eau circule en tourbillonnant à l'intérieur, ce qui fait vibrer...
Les vibrations.
Les vibrations des crayons. Ah oui, mais alors, si l'eau circule mal à l'intérieur... Ça vient d'où? Bah, c'est une conception, ça. C'est pas normal. Pour que l'eau circule bien, de manière fluide, à l'intérieur des crayons, il faut qu'il y ait des systèmes pour ça. Donc, visiblement, on apprend maintenant que, parce qu'on a posé les questions à l'autorité de sûreté nucléaire, qui attend les réponses de EDF, etc., etc., on apprend que, ils avaient observé sur la maquette de l'EPR, ils avaient observé, donc ça c'était il y a 15 ans, ils avaient observé un phénomène qui ressemblait beaucoup à ça, de vibrations, etc., qu'ils n'avaient pas résolu, qu'ils n'avaient pas signalé à l'autorité de sûreté nucléaire, donc qui n'avaient pas été étudiés jusqu'à présent. C'est grave quand on en est là. Voilà où on en est de cet EPR. Et, alors, ça c'est pour la France. Pour les Anglais, ils en sont pour l'instant au béton, hein, c'est pas quoi. Et pour les Finlandais, on a averti, nous, l'autorité de sûreté nucléaire finlandaise, en disant, bon, vous avez donné le feu vert, c'est vrai, pour le démarrage, sauf que allez-y mollo, parce que vous allez voir, peut-être que vous allez voir des choses. L'autorité n'a pas écouté la CRAD, l'autorité générale, elle a donné le feu vert, mais elle a donné une feuille de route à l'exploitant, et lui dire... Vous y allez mollo. En gros, ils vont mettre 6 mois pour atteindre la puissance nominale. Vous voyez, c'est un démarrage en douceur. Parce qu'effectivement, ils se posent beaucoup de questions. Donc, voilà. Et là, moi, je ne sais pas comment ça va aller, mais en tout cas, les EPR normaux, entre guillemets, ben, ils ont des problèmes. Alors, du coup, les politiques ont dit « Ah, mais on va faire un EPR 2 ». Ah ça sort du chapeau, ça. Ces EPR2, On nous les vend comme étant des mieux, etc., mieux conçus. Bon, moi, j'y crois pas du tout. Mais surtout, ce qui a été évoqué en disant pourquoi ils auraient moins de problèmes, ben parce qu'on va alléger la sûreté. Oh là, mais ça, c'est vachement... En gros, l'EPR 1 serait trop sûr, ce qui emmène des problèmes. Mais c'est du pipeau, ça. On nous roule dans... Enfin, on nous balade, là, avec des discours qui n'ont aucun sens. Aucune logique. Voilà. Alors là, les EPR2, tout de suite, la SN a dit « Oh, là, nous, on va y regarder de plus près. Hein, parce que vous dites alléger la sûreté, mais les plans, on ne les connaît même pas. Attendez là, comment on peut imaginer démarrer ces réacteurs dans 10 ans ? C'est pas possible. Hein, on nous annonce déjà que le coût de l'électricité qui sortirait de ces EPR2, il est déjà 3 fois plus cher que le coût de l'électricité officielle aujourd'hui. C'est-à-dire, au lieu d'être à 40, il est à 150 euros le mégawattheure. Invendable, cette électricité. Alors, l'EDF a très bien magouillé en Angleterre, parce qu'elle s'est débrouillée pour avoir des subsides pour construire de l'Europe, et a négocié avec le gouvernement anglais un prix de rachat super avantageux, à 120 euros le mégawattheure. Non, mais comment ils ont fait, je ne sais pas, mais là, ils ont. C'est pas normal, quoi. Voilà. Voilà un petit peu. Alors, les SMR, hein, les Small Modular Reactors, parce qu'on ne sait plus parler français maintenant, c'est encore plus hypothétique, hein, et c'est encore plus loin. On est devant, soi-disant, le Lego. Du nucléaire, c'est-à-dire on fabrique en série dans une usine et on monte tout ça. Ça produira la même électricité, la même coût, sauf qu'on devrait éviter quelques avatars de construction. J'y crois pas du tout.
D'accord, je pense qu'on va faire une pause musicale. Je renvoie les auditeurs au site de la CRIRAD qui a notamment les derniers communiqués par rapport à ce qu'on vient d'échanger là sur le PR de Taishan en Chine et puis beaucoup d'autres choses d'ailleurs sur le site sur toutes vos activités. Une petite pause musicale, Monique.
Il y a eu Antoine avant moi. Il y a eu Dylan avant lui. Après moi, qui viendra? Après moi, c'est pas fini. On les a récupérés, oui, mais moi, on m'aura pas. Je tirerai le premier et je viserai au bon endroit. J'ai chanté 10 fois, 100 fois. J'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. J'ai marché sur bien des routes, j'ai connu bien des patelins. Partout on vit dans le doute, partout on attend la fin. J'ai vu occuper ma ville par des cons en uniforme, que des pas vraiment virils, mais qui se prenaient pour des hommes. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. J'ai vu pousser des barricades, j'ai vu pleurer mes copains, j'ai entendu les grenades tonner au petit matin. J'ai vu ce que tu faisais, l'hip-hop qui vit pour toi. J'ai connu l'absurdité de ta morale, de tes lois. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant les mois. J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. Demain, prends garde à ta peau, à ton fric, à ton boulot, car la vérité vaincra, la commune refleurira. Mais en attendant, je chante et je te crache à la gueule cette petite chanson méchante que t'écoutes dans ton fauteuil. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant les mois, j'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas.
Société, tu m'auras pas. Vous avez bien évidemment reconnu une chanson de Renaud, mais là, elle était interprétée par Olivier Trévidi dans Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Donc toujours avec Roland Desbordes de la CRIRAD, on parle évidemment du nucléaire sous divers aspects, notamment On avait parlé de Le Père et de ses ennuis, mais surtout du coup, hein, assez énorme qui est en route et l'espoir peut-être de finances au niveau européen ou de finances dans nos poches comme d'habitude. Voilà, je propose qu'on aborde un autre sujet parce que, y compris pour en avoir parlé autour de moi, des gens tout à fait honnêtes, hein, qui sont pas spécialement pour le nucléaire, mettent un certain espoir. Peut-être pas dans le projet ITER en tant que tel, mais l'utilisation d'hydrogène qui aurait, si ça marchait, aurait un certain nombre d'avantages, beaucoup moins de développement d'êtres radioactifs, etc., etc. Donc c'est important de voir où en est ce projet, qui en est qu'au balbutiement, hein, puisqu'il s'agit pour l'instant uniquement de faire une espèce de laboratoire, certes énorme, mais dans une coopération d'ailleurs internationale dans laquelle il y a la Russie, par exemple, enfin pas uniquement. Donc si tu peux nous parler de ce projet rapidement déjà pour rappeler ce qu'il est, et puis je sais pas, j'avais vu qu'à un moment d'ailleurs il avait été arrêté là, il y a quelques mois, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. Voilà, si tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus.
Alors déjà, c'est quoi ITER? C'est un grand projet international que la France s'est beaucoup bagarrée pour financer de manière internationale, mais pour que ça se fasse en France. Il y avait plein d'autres pays qui étaient candidats, y compris la Russie, etc. Il faut finir, cocorico, on a gagné, ça se fait chez nous. Mais avec les financements internationaux. Ça se fait à Cadarache, c'est dans les Bouches-du-Rhône, et avec des aides, évidemment, y compris de collectivités locales, hein, la région, etc. Enfin, tout le monde a mis la main à poche là-dessus. En espérant des retours de MAN hypothétiques. Alors, c'est sûr qu'on a construit beaucoup de choses localement, y compris des routes qui ne servent que pour ITER. Parce que tout est gigantesque dans ce truc-là. Pourquoi faire des routes spéciales? Parce qu'il y a des pièces qui sont là-dedans, qui sont tellement énormes à transporter, qui arrivent par bateau à Fos-sur-Mer et qu'il faut transporter jusqu'à ITER. Et les routes au gabarit normal, ça passe pas. Donc on construit des ouvrages spéciaux. Donc tout le monde a mis la main à la poche. Et puis un projet gigantesque. Alors, ce qui consiste en quoi? C'est l'idée, c'est d'utiliser la fusion thermonucléaire avec de l'hydrogène radioactif, du tritium et du deutérium, hydrogène lui aussi, mais non radioactif, et la fusion de ces deux hydrogènes qui vont donner de l'hélium. En fait, c'est ce qui se passe, des atomes légers
dans le soleil.
Dans le soleil, voilà. Tout à fait. Donc, on va faire le soleil sur Terre.
Voilà. Oui, ils ont fait de la pub.
Exactement. Alors, c'est évident, comme tous les projets, c'est séduisant quand on les regarde en disant c'est génial, ça produit une énergie dingue, avec l'itritium on en trouve partout, et sans déchets, etc. Ça a toutes les vertus de la planète. Évidemment, il faut vanter tout ça pour obtenir de l'argent. Et ils ont très bien joué, tous les promoteurs, pour obtenir des sommes très importantes, y compris de la Russie et de l'Europe. L'Europe finance avec... Nous finançons, nous, ITER, à travers deux voies, nos impôts nationaux et l'Europe. Et tout ça pour faire quoi comme expérience? Eh bien, une sacrée expérience, c'est d'arriver à fusionner de manière entretenue, c'est-à-dire non explosive, parce qu'on espère que ça ne nous pètera pas, ce ne sera pas la bombe H, parce que c'est la bombe H si on ne fait rien. Donc là, il faut démarrer, il faut l'allumette en quelque sorte, et puis il faut contrôler la réaction. Pas que ça explose, il ne faut pas que ça s'éteigne, et que ça arrive à produire un peu plus d'énergie que ça en a consommé pour l'allumer.
Oui, c'est le fameux facteur Q, je crois, entre l'énergie.
Comme c'est une énorme, énorme machine, il faut beaucoup d'énergie. Voilà. On a amené des lignes spéciales pour amener l'énergie électrique, pour démarrer la réaction de fusion. Et on espère récupérer de la chaleur, et un peu plus de chaleur qu'on en a utilisé pour démarrer la réaction. Et ça, c'est ce qu'on espère, parce qu'on n'en est pas là. Jusqu'à présent, il s'agit d'obtenir des millions de degrés Ça se fait pas dans une casserole normale. Mmh. Il faut ce qu'on appelle une casserole virtuelle. Mmh. C'est-à-dire de la matière en lévitation. Mmh. Ça se fait grâce à un champ magnétique. Donc à un système magnétique avec des bobines énormes, etc., 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 qui consomment tellement de courant qu'il faut les refroidir, ces bobines. Donc ça va, etc. Enfin bon. Je ne vais pas rentrer dans la technique, non. Mais ça...
Non, bah, en gros, il y a un plasma qui est entouré, justement,
voilà.
Par un champ magnétique.
Et puis là, on va chauffer, jusqu'à obtenir le million de degrés, avec simplement quelques grammes, donc d'hydrogène, de deutérium, tritium. Et si tout va bien, ça nous pète par la figure, parce que les plasmas, un certain nombre de gens se posent des questions. Et on connaît les plasmas, c'est l'état condensé de la matière. C'est le cinquième état de la matière, en fait. Hein. C'est un état condensé où on n'a plus que les noyaux des atomes. Mmh. On a oublié les électrons, etc. Et cet état-là est un état extrêmement particulier. Et tous les scientifiques qui travaillent sur les plasmas, et il y en a un certain nombre, ont des expériences parfois un peu malheureuses. Ce qu'on appelle l'instabilité des plasmas. Mmh. C'est une réalité. Il y a des fois, ça dérape. Mmh. Donc moi, j'espère c'est que l'expérience ne dérapera pas, que ça n'explosera pas, et qu'on arrivera à produire ça. La réponse, c'est quand ?
Dans oui, parce que là, pour l'instant, avec ce qui est mis en place, enfin, je ne sais même pas si c'est fini de construire, d'ailleurs, ITER. Est-ce que les bâtiments sont finis de construire et tout ça
Alors, on a construit le gros œuvre, hein, en gros, le béton, d'accord. On en est à construire l'intérieur.
Oui, mais j'ai vu des photos, ça a l'air assez énorme.
C'est gigantesque. Ouais, ouais. C'est gigantesque, pardon.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que finalement, l'objectif ITER en tant que tel, après, il y a des choses, il y a des mots, il y a tout ça, enfin, il y a plein d'étapes. Mais la première étape, c'est fonctionner pendant quelques minutes, je crois.
Ah oui, c'est quelques minutes. Mmh. Disons que, ce que disent les scientifiques, ils disent si on est capable d'entretenir une réaction nucléaire de fusion thermonucléaire pendant quelques minutes, on pourra tenir une heure, ou deux heures, ou trois heures, voire une journée, voire des années. Mmh. Bon, c'est pas évident, mais. Peut-être qu'ils ont raison. Mmh. En tout cas, le challenge, c'est de tenir quelques minutes. Mmh. Voilà. Et de produire un peu plus d'énergie qu'on en a consommé. C'est ça. Mmh. Et la réponse est, en gros, on l'aura dans 20 ans. Mmh. Bon, en gros, c'est 2040, hein, l'objectif. Eh oui, mais beaucoup de gens nous disent, mais c'est pour produire de l'électricité qu'on voudrait, nous. C'est pas simplement... Alors là, c'est la deuxième étape. Voilà. C'est passer à ce qu'on appelle un modèle... qui serait où on va extraire la chaleur produite pour faire de l'électricité. Donc ça passe par un moyen de transférer cette énergie à une machine à vapeur. Parce que, de toute façon, on arrive à ça. Faire bouillir de l'eau, faire de la vapeur, pour faire tourner à des turbines qui vont tourner un alternateur qui vont produire l'électricité. Ah. On retombe sur ce schéma-là. La machine à vapeur, c'est la centrale thermique. Et là, on dit, ah oui, mais alors, on a une casserole, on a réussi à faire la chaleur, ça nous est... Bon. Et comment on va sortir la chaleur d'une casserole virtuelle? Bon, quand on a une casserole sur le feu, on vit vidéo, ça va. Mmh. Mais là, c'est pas tout à fait pareil. Et là, tout le monde, enfin les gens honnêtes, vous répondent, on verra plus tard. Voilà. Moi, c'est ça que je dis. On aura la réponse. Les gens optimistes vous disent en 2070, on aura la maquette. Mm. Le prototype.
Le proto, oui. C'est ce qu'ils appellent le proto, je crois.
Voilà. Ouais, le prototype qui serait capable de produire de l'électricité. Mm. C'est loin. Très loin.
Oui, d'accord.
Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens disent c'est de la recherche en science, c'est de la recherche. Enfin là, c'est plus de la recherche fondamentale, c'est de la recherche-développement. Mmh. En tant que scientifique, on est tous pour que la recherche cherche. Mmh. Mais je suis désolé, on a d'autres urgences devant nous. Mmh. C'est censé répondre à une question d'un défi énergétique. Qu'est-ce qu'on a sur la table pour répondre à ce défi énergétique? On a plein d'autres solutions. Celle-là, elle coûte très très cher et résultat très aléatoire. Et réponse, dans 50 ans. Désolé, on aura autre chose à faire. Il se sera passé tellement d'autres choses d'ici là que le résultat n'aura plus aucune importance. Je suis désolé. Voilà.
Oui, deux éléments pour terminer. Enfin, terminer. Visiblement, c'est pas terminé, terre, justement. Quoique, bon, il y a là quand même, première interrogation, l'apport de la Russie, je pense qu'il n'est pas négligeable au point de vue matériel. Peut-être, je ne sais pas exactement ce qu'ils amènent.
Oui, ben, y a, c'est un consortium, ITER,
où il y a les Japonais. Il y a la Chine, il y a l'Inde.
La Chine, pas la Corée du Japon, Sud aussi, peut-être la Corée du Sud, la Suisse, France, hein, la Suisse. Il y a la Suisse, effectivement. Ouais. Enfin bon, c'est un consortium avec, suivant les pièces à fabriquer, il y a des. Alors, il y a le financement d'un côté, et puis il y a la fabrication.
Eh ben oui.
Et dans la fabrication.
Je crois que d'ailleurs, c'est dans le. Oui, j'avais lu que l'apport d'un pays pouvait se faire sous forme justement de matériel.
Absolument.
Ouais, ouais.
Donc il y a des compétences qui sont demandées, exigées pour certaines pièces, et que certains pays connaissent, ont, et d'autres pas. Donc, comme c'est des pièces tout à fait spéciales, évidemment, c'est pas évident. Là, donc, il y a effectivement des pièces. Alors, du côté russe, je ne sais pas ce qui est. J'ai vu qu'il y avait effectivement des pièces qui avaient été commandées à la Russie. Bon, en gage de sa participation au projet ITER. Je ne connais pas le détail. Par contre, ce qui m'a interpellé récemment, c'est que l'autorité de sûreté nucléaire de Marseille, qui surveille l'installation, a fait une inspection, c'est très récent, ça date d'il y a un mois à peu près, et qui soulève beaucoup de problèmes. Jusqu'à présent, l'autorité de sûreté nucléaire, sur les bétons, sur les ferrailles, sur etc., a soulevé quelques petits sujets de problématiques. Mais globalement, le projet s'est déroulé à peu près comme prévu. Pas trop d'imprévus. Là, on attaque les choses sérieuses, puisqu'on attaque le tokamak, c'est-à-dire la casserole, les aimants, les bobines, etc. Et là, c'est là où ça va chauffer.
Bah, et puis, il va falloir souder. C'est des segments, je crois, qui arrivent, qu'il faut souder entre eux.
Je ne connais pas trop la technique, mais je sais que l'autorité de sûreté nucléaire a dit qu'il y a un problème. Que vous n'avez pas respecté certaines normes sur certaines pièces essentielles pour la sûreté, comme on dit. Et là, il va falloir revoir les choses. Du coup, le chantier est bloqué.
Oui, ça datait le fin janvier, c'est toujours bloqué, donc ça,
exact.
Je ne savais pas.
Voilà, c'est récent tout ça. C'est la première fois que le chantier est bloqué. C'est un chantier qui dure depuis un certain temps maintenant.
Oui, mais c'est là aussi, peut-être parce qu'on commence à approcher d'une casserole.
Des choses sérieuses.
Une vraie casserole, des choses sérieuses, c'est peut-être ça aussi.
Oui, tout à fait. Mais du coup, ça pose des questions, parce que si ça veut dire qu'on a monté des pièces qui ne sont pas a priori conformes au cahier des charges. C'est ça, l'ASN, elle a vérifié ça, c'est tout. Pièces non conformes au cahier des charges, donc moi je bloque le chantier. Il y en aura peut-être d'autres, etc. Je veux dire que ça va prendre du retard, enfin bon. Tant mieux si l'ASN s'en est aperçu avant, etc. Bon, c'est plein de questions, ce sujet-là. J'estime qu'aujourd'hui, devant les urgences de toutes sortes, on a mieux à faire que de mettre notre argent dans ce genre de truc, quoi.
Oui, en
plus. Ça fait rêver, évidemment, soleil sur terre. Récemment, j'étais dans le secteur là-bas et il y a un écologiste local qui avait été un militant écologiste qui est allé visiter ITER. Il m'a dit, je suis allé voir ITER. Je dis, ah bon, quel intérêt. Il m'a dit, justement, si je voulais leur poser la question. Vous voulez faire le soleil sur Terre, mais est-ce que vous êtes sûr que ça va marcher? Vous comprenez, il y a des impondérables, blablabla. Dit, vous aurez toujours la solution d'y mettre des capteurs solaires autour.
Oui, tout à fait. Bon, de toute façon, moi, j'ai lu, dans le milieu scientifique, il y a un certain nombre de gens qui sont quand même assez sceptiques.
Complètement.
Il y en a plusieurs, on ne va pas les citer.
Même des prix Nobel qui disent non, c'est...
J'avais une remarque, parce que j'ai travaillé dans un autre domaine, moi, je ne suis pas du tout opposé à ce que les pays, au contraire, mettent des choses en commun au niveau scientifique, mais des fois, ça pose des problèmes. problème justement au moment de l'assemblage, au moment de tout ça. Je me souviens, moi j'ai connu ce qu'il y a. Moi j'étais un peu sur les fusées, je travaillais sur Ariane. Et avant le projet Europa, la coopération technique avait été assez mal conçue. Et c'est pour ça qu'Europa s'est cassé la gueule et ils ont réfléchi à petit. Alors je ne sais pas du tout comment fonctionne ITER, mais on a parfois des surprises.
Ils ont les mêmes problèmes. Ah moi oui. Je connais par des techniciens. Et des problèmes de compatibilité de matériel.
Ben voilà, exactement.
Simplement de mode de filetage, voilà. Ces trucs tout bêtes.
Ah oui. Ben oui, non, mais c'est des choses tout bêtes. Hein.
Non, mais il y a les mêmes problèmes à ITER.
Ah ben, c'est
mais là, bon, tant qu'on était au bidouillage de tuyaux, machin, c'était pas encore très grave et on a résolu les problèmes. Mais c'est vrai, la coopération sur le plan technique, ah oui. Elle n'est pas évidente.
Ah, c'est pas évident du tout. Mmh. Ouais. D'accord, une dernière chose peut-être sur ITER, j'ai lu, alors ça peut-être toi tu as plus d'infos que moi, comme ça en faisant quelques recherches pour préparer l'émission, que les Chinois avaient aussi un projet un peu dans le même esprit, il s'appelle EAST, E-A-S-T, ça te dit quelque chose ça?
Oui, ben, y a plein de pays qui travaillent sur la fusion thermonucléaire.
Ouais,
avec, y a les militaires, il y a les civils, parce qu'il y a plein d'idées derrière. Pourquoi ? Parce que c'est un mythe qui excite beaucoup le monde scientifique. Réaliser une fusion, Du coup, il y a des techniques, mais beaucoup moins lourdes qu'ITER.
D'accord.
Qui sont ce qu'on appelle les tokamaks. Tokamak. Alors, il y en a en Russie, c'est un concept russe d'ailleurs, le tokamak. Aux États-Unis, en Chine, etc. Il y a des. Alors, beaucoup plus modestes, je dirais, mais où on essaye avec. De concentrer. En fait, l'idée, c'est de concentrer une énergie dans un. Dans un domaine quasiment ponctuel, c'est-à-dire une zone extrêmement limitée. Et il y a des recherches qui sont faites, mais ce n'est pas dans l'idée, c'est-à-dire on est capable d'amorcer une réaction de fusion, on est capable de l'amorcer, sans être obligé d'utiliser une bombe atomique, parce que dans la bombe H, c'est une bombe A qui crée la fusion. Donc là, on est capable, avec des moyens, je dirais, de laboratoire, de créer une température de plusieurs millions de degrés. Alors, il y a différentes techniques pour ça, et la technique qui est souvent utilisée, c'est les lasers. Et par exemple, nous, en France, on a en parallèle, mais ça c'est militaire, le laser mégajoule de Bordeaux, qui... Et lui, on met, je ne sais pas combien, 50, 100 lasers qui pointent tous au même point. Et là, du coup, localement, vous avez une température qui peut atteindre des millions de degrés. Alors, les militaires en chient beaucoup pour ça, excusez-moi le terme, mais comment ajuster, parce que la dimension du point, c'est de l'ordre du micron. Comment ajuster 50 lasers pour qu'ils tirent au même endroit? C'est pas si évident.
Oui, mais s'il y a de l'argent, ça, on conçoit très bien que les scientifiques peuvent s'y intéresser, à la limite, tout à fait honnêtement.
Mais ce qui est honnête, je dirais, c'est que là où on fait la recherche sur la fusion nucléaire, et il y en a d'autres, et c'est pas nouveau, et il y a toujours un peu d'actualité, c'est qu'on ne fait pas croire aux gens que c'est qu'on va réussir à produire de l'énergie gratuite, etc. Toute l'intox qui est autour de ITER, je ne l'entends pas ailleurs. On fait la recherche, on fait ça. Mais là, avec ITER, c'est qu'on a embobiné tout le monde en disant on va créer l'énergie gratuite, illimitée, etc. sans déchets. C'est là où c'est, pour moi, en tant que scientifique, qui milite dans une association d'information indépendante, je dis, là, on se fout de la gueule du monde. C'est ça qui m'énerve.
Oui, ça me fait penser à quelque chose, où je ne sais plus, c'est dans une discussion, justement, autour d'une émission, ou peu importe, sous ces domaines-là, donc les annonces, enfin, c'est ça qui m'y fait penser, qu'on veut nous faire avaler à la radio, ou à la télé, ou ailleurs, avec une caution scientifique, du moins de certains scientifiques, sont amenés par des hommes politiques, ils sont là pour ça, et il y a quelqu'un qui me disait, pour en avoir fréquenté certains, quels qu'ils soient, hein, là, je ne cherche pas à porter tel ou tel, la plupart, ils sont totalement, mais vraiment ignorants, quoi. Ah, mais ignorants, mais ignorants à point, ils disent, tu peux pas imaginer. Alors, peut-être pas tous, il y en a quelques-uns, mais c'est pour ça que l'utilisation qu'ils peuvent faire, effectivement, d'annonces, etc., avec rien derrière comme connaissance, quoi. Alors, je sais pas ce que t'en penses, ça a peut-être l'occasion d'échanger avec eux.
J'ai rencontré les élus locaux, j'ai assisté à plusieurs réunions de la commission locale d'information, ITER, parce qu'il y a à Cadarache, il y a la CLI à Cadarache, et puis ils ont créé une commission spéciale ITER. J'y ai assisté, moi, on m'avait demandé pour des associations, etc. Mais je vois bien que les élus, mais ils comprennent absolument rien de ce qui se passe. Mais rien du tout. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'ils ne posent même pas de questions. On leur demande de faire des chèques, et puis c'est tout. Et on les fait rêver, avec des trucs mais complètement idylliques, etc. Mais j'ai l'impression que plus on les fait rêver, plus ils font des chèques.
J'ai rien contre les rêves, mais quand ça coûte cher comme ça.
Mais non, mais c'est plus un projet paraît délirant, plus ils ont envie d'y aller.
Mais peut-être derrière ils sont les héritiers, parce que bon, on parle donc, au passage, je critique les hommes politiques, dans la mesure où ils sont plus dangereux, puisque dans la mesure où ils peuvent faire des choix, mais est-ce qu'ils ne sont pas l'héritier, si tu veux, de cette idée qui peut être partagée par pas mal de gens, parce que la science va tout résoudre, quoi. Hein. Alors c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, on commence à se poser des questions. Mais je pense qu'il y a eu toute une période, y compris dans des milieux contestataires, où je respecte entièrement la science, c'est pas la question, mais elle peut pas régler forcément tous les problèmes, on n'a pas les moyens.
Non, mais là, mon cher Serge, c'est qu'on a hérité de Sapiens. On aurait mieux fait d'hériter de Néandertal. Néandertal, on ne serait pas dans toutes ces conneries. Alors peut-être qu'on serait allumé avec des bougies, je ne sais pas. Mais en tout cas, le Sapiens, ça, c'est génétique. Il faut qu'il fasse des conneries. Et en même temps, il prévoit comment les réparer. Mais il n'arrête pas. Et c'est de plus en plus gros. Jusqu'à présent, on n'avait pas réussi à détruire la planète, mais là, on est en train d'y arriver.
Oui, tout à fait, mais c'est dans tous les domaines. On parle du nucléaire, on peut parler d'autres domaines, on a fait des émissions. Et effectivement, on développe quelque chose, parce qu'il y a de l'argent, que les labos travaillent dessus, bon, on arrive forcément à des problèmes, à des impacts. Ah oui, mais on va refaire du fric, on va trouver une solution qui va régler, etc.
On développe des produits chimiques, et en même temps, on développe les médicaments pour traiter le cancer. Voilà. Où est le bénéfice?
N'avez-vous pas de mémoire? Revoici les années noires qui montrent leur nez pas bien loin. Revoici les années 30 ou alors leurs descendants de fringués chics présentant bien. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, un gros Duce en fureur, voilà ce qui était en chemin. Aujourd'hui, ce qui s'avance, c'est la même pestilence, et vous ne dites rien. N'entrevoyez-vous pas derrière la propagande grossière et les slogans assénés? Derrière l'homme providentiel quasiment tombé du ciel, juste à point pour nous sauver. Comme l'ombre, comme l'image, grisâtre, vieillie par l'âge, de la barbarie du passé. Même racisme, même brute, même vertige, même chute, et vous restez muet. N'ont-elles rien qui vous débecte ces publicités infectes qui maculent nos journaux? Est-ce parti, valet des riches, qui se prétend sur ses affiches doux et blanc comme l'agneau? Qui déterre des peurs anciennes pour appeler à la haine sur fond d'Alpes et de drapeaux. Tandis que son chef ricane et triomphe et se pavane, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Ne voyez-vous pas l'évidence, les provoques et la violence qui montent dans ce pays? Où sans honte, des cyniques, arrivistes politiques s'inclinent ou bien se rallient? Où l'on prépare le lit de l'horreur et de la nuit en se pensant à l'abri. Quel tocsin faut-il sonner? Combien de cris désespérés faudra-t-il lancer ici? Quel tocsin faut-il sonner? Combien de cris faut-il lancer, putain, pour vous réveiller?
années 30, Michel Buller.